Un air d'actu avec Serge Carrel.
Il est le directeur de la radio chrétienne Tahanint à Tombouctou. Abdoulaye Cissé a reçu le prix François Sergi 2021 lors de la formation du Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone, c'était la semaine dernière, à Lomé, au Togo. À 55 ans, ce Malien a été distingué, je cite, pour son action empreinte de courage, son application dans la promotion du vivre ensemble et sa persévérance dans le difficile contexte de l'extrémisme religieux. Rencontre avec un chrétien d'origine musulmane qui vit dans un contexte où l'engagement de foi coûte et peut même coûter très cher. Le Mali est un des pays de la bande sahélienne gangrénée par le djihadisme islamique. Dans ce contexte extrêmement difficile, des chrétiens d'origine malienne témoignent de leur foi et risquent même des manifestations concrètes et publiques de l'Évangile en animant une radio chrétienne ou en réalisant des émissions chrétiennes diffusées sur des radios communautaires. Abdoulaye Cissé est du nombre puisqu'il dirige la radio Tahanint à Tombouctou, au centre du pays. Le 26 novembre dernier, il a reçu le prix François Sergi, distribué par Radio Réveil et le Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone, lors de la cérémonie de clôture d'une semaine de formation. Rencontre avec un homme de radio qui est aussi pasteur et qui explique ce que sa radio propose aux habitants de Tombouctou. Cette interview est réalisée conjointement avec Sandrine Chouanti, journaliste à Canal de Vie Télévision à Douala, au Cameroun.
Nos activités, c'est essentiellement la proclamation d'abord de l'Évangile, et ensuite l'accompagnement par exemple des autorités au niveau de la sensibilisation, au niveau du développement, par exemple la transmission des messages, des communiqués, tout ce qui peut aider dans la bonne gouvernance, tout ce qui peut appuyer les autorités dans le travail qu'ils effectuent quotidiennement.
Et vous êtes très écouté sur Tombouctou ?
On est très écouté et je vais vous surprendre en vous disant que la radio Tahanint fait partie des meilleures radios de la région, sinon même la meilleure, parce que même les autorités ont l'habitude de nous féliciter par rapport à notre travail et par rapport au sérieux même du travail que nous faisons.
Et ce qui est surprenant, c'est que vous avez la possibilité, via votre radio, de diffuser toute une série d'émissions, en achetant le temps d'antenne, bien entendu, mais sur toute une série d'antennes de radio du nord du Mali.
Oui, bien sûr. Au départ, on ne diffusait que sur notre seule radio. Mais nous avons compris que si nous voulons atteindre vraiment les populations, si nous voulons avoir des résultats, il faut aller au-delà de la seule radio. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler avec des partenaires que j'appelle des partenaires de diffusion. Donc nous mettons à leur disposition des programmes déjà enregistrés et nous testons des temps d'antenne. Aujourd'hui, nous avons une quarantaine de partenaires dans ce sens-là pour couvrir à peu près toute la région de Tombouctou où nous sommes écoutés à travers ces radios partenaires.
Pasteur Abdoulaye Cissé, il faut dire que vous êtes musulman, mais devenu chrétien aujourd'hui. Parlez-nous un peu, comment a été votre rencontre avec le Seigneur? Comment vous l'avez rencontré? Dans quelles circonstances?
J'ai rencontré le Seigneur, j'étais encore très jeune, entre 14 et 15 ans. C'était à l'issue d'une école d'été, on en organise au niveau des églises dans le nord du Mali, avec la mission baptiste à Diré, dans une ville située à une centaine de kilomètres de Tombouctou. Pendant cette école d'été, c'était le pasteur Abdoulaye Sango qui était encore, je crois, étudiant. Il n'avait pas fini Yamoussoukro, donc il était venu en vacances.
Donc quand vous dites Yamoussoukro, c'est une école biblique à Yamoussoukro?
Oui.
Donc en Côte d'Ivoire?
Oui, en Côte d'Ivoire, l'institut biblique de Yamoussoukro, où Abdoulaye Sango, qui est issu de la même église que moi, a été envoyé pour devenir plus tard pasteur. Alors, il était revenu en vacances et puis pendant l'école d'été qu'il organisait, je crois, c'est dans le cadre de ses vacances. Alors, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur et c'est lui qui m'a conduit au Seigneur.
Comment est-ce que ça s'est passé? Quand vous êtes rentré, comment avez-vous exprimé votre foi?
Bon, je veux dire, j'ai pas pu exprimer ma foi immédiatement quand je suis retourné. D'abord, il y avait la moquerie de mes amis qui participaient à la même école d'été que moi. Ah bon, tu as osé accepter Jésus comme ton Seigneur? Parce que eux, ils venaient juste pour avoir les jouets ou autre chose. Mais moi, j'étais attiré par autre chose. C'était vraiment ma foi qui était touchée.
Vous aviez quel âge?
J'avais 14-15 ans. J'avais à peine 15 ans. Mais déjà, j'étais quelqu'un de très calme dès le départ. J'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup rester dans mon coin en train de réfléchir. Donc, je crois que ce n'est pas par hasard que j'ai été touché comme ça.
Comment votre père a réagi?
Comme je disais, je me suis caché pendant un bon moment. Je n'ai pas révélé ma foi. Il y avait la rumeur, il a entendu, mais puisqu'il ne me voyait pas fréquenter les chrétiens, donc il ne disait rien. Mais c'est quand je me suis fait baptiser que mon père a appris la nouvelle. Et quand je suis revenu, on a fait le baptême au bord du fleuve. Et quand je suis rentré à la maison, mon père m'attendait avec la cravache.
Comment ça s'est passé?
Il n'a pas pu me passer à tabac de façon correcte. Je crois que j'ai reçu au moins un coup et j'ai pu m'échapper.
Et là, vous aviez quel âge?
Non, là, j'étais encore...
Vous aviez 15 ans, 16 ans ou vous étiez un petit peu plus âgé?
Non, là, c'était à 16 ans.
Donc votre père, Marabout, vous donne un coup de cravache. Puis là, qu'est-ce que vous faites?
Je prends mes jambes à mon cou, donc je disparais. Et il a fallu l'intervention des amis de mon père pour lui dire non, il faut aller doucement avec le petit, il faut lui parler. Alors je suis revenu à la maison. Je sais pas si c'est on peut parler d'éteindre ma foi, mais quand même j'ai mis ma foi en sourdine pendant un bon moment.
Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment étaient vos relations avec votre père?
Je crois que mon père, même quand il a essayé de me chicoter, c'était parce que c'était pour montrer de la rigueur. Il avait beaucoup d'amour pour moi. Après ces événements, donc, je crois qu'on a commencé à nous connaître mieux. Il a compris que j'étais quelqu'un de très sérieux. Quand je m'engage dans quelque chose, c'est que j'avais des raisons profondes de le faire. Je ne partais plus à l'église, donc je ne participais pas à des rencontres de chrétiens. Donc finalement, dans son esprit, pour moi, c'était fini. Or, je continuais à lire secrètement ma Bible. Je continuais à prier seul dans ma chambre.
Et finalement, vous allez même jusqu'à suivre les cours d'une école biblique.
Oui, effectivement, c'est quand je suis arrivé au BPC, comme on dit. Alors, j'ai fait le BPC et puis j'ai échoué la première année. Alors, j'ai décidé de ne plus reprendre l'école. Et j'ai fait un concours d'entrée dans un centre, on appelle le centre Père Michel ou un centre professionnel de Niarela. C'est une école créée par les catholiques. Alors, quand j'ai dit à mon père que je partais à cette école, lui, Marabout, il ne comprenait pas parce qu'ils ont dit Père Michel. Alors, un de ses amis lui a dit, bon, écoute, si ton enfant va dans cette école-là, il va devenir un vrai chrétien et c'est terminé. Alors, mon père m'a dit, si c'est comme ça, tu n'iras pas. Alors, j'ai dit, ok, je n'irai pas. J'ai arrêté, mais après, j'ai fait un voyage en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis allé voir le pasteur Abdoulaye Sango. Il était au niveau de Radio Elva. Alors, je lui ai dit, ah, moi, vraiment, je voudrais approfondir ma connaissance dans les Écritures. Il m'a dit, ok, il y a les cours par correspondance, donc les cours Elva, là. Alors, les cours Emmaüs, plutôt. Donc, il a commencé à me donner les cours. Je partais les traiter à la maison, je les ramenais. Et au bout
Mais là, vous étiez toujours en Côte d'Ivoire, vous n'étiez pas de retour à Tombouctou.
Non, j'étais pas de retour à Tombouctou. J'étais toujours en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait un an en Côte d'Ivoire. Et je crois au bout de 6 mois, ou je sais pas, 8 mois, j'ai terminé avec les 12 cours Emmaüs. Donc, j'ai dit, bon, vraiment, je pense que je voudrais aller plus loin encore. Et là, je me suis rappelé qu'il y avait un institut biblique qui devait ouvrir ses portes à Gao. Alors, je l'ai dit, je rentre au Mali pour aller à l'institut biblique.
Et là, comment est-ce que votre père Marabout a pris le fait que vous vous inscriviez dans le cadre d'une école biblique?
Ça l'a vraiment choqué, parce que déjà, lui, le fait même d'aller dans une école, dans un centre professionnel, qui s'appelait Père Michel, ça l'a déjà choqué. Et quand on lui dit maintenant que je vais à l'institut biblique, je peux imaginer comment sa réaction. Mais comme je vous disais, c'était quelqu'un qui me comprenait beaucoup. Je crois que même la première fois, sa réaction, c'était dû certainement aux autres. Mais après, lui et moi, on s'est entendu. Il m'a pas fait de difficultés.
Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il faut se verrouiller la mâchoire? Silence à genoux devant ceux qui gueulent plus fort que nous. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il faut laisser les clés de l'avenir aux arrogants oracles en attendant qu'ils fassent pour nous des miracles? Chante, allez, chante les pensées qui te hantent, les idées auxquelles tu tiens.
Vous écoutez Un Air d'Actu sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne. Nous venons d'entendre Pascal Obispo qui chantait « Chante la rue chante ». Interview aujourd'hui d'Abdoulaye Cissé, directeur de la radio Tahanint à Tombouctou au Mali et lauréat du prix François Sergi 2021. Il nous parle maintenant de la persécution des chrétiens au Mali.
Bon, la persécution des chrétiens est une réalité. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé, disons simplement en 2012, avec la crise que nous avons vécue.
Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé concrètement en 2012?
Il faut aller peut-être jusqu'en 2011, quand la Libye est tombée. Donc les Touaregs qui étaient derrière avec Kadhafi, qui assuraient la garde de Kadhafi, donc se sont regroupés et je crois qu'ils avaient des promesses de la France qui leur promettaient de leur donner l'indépendance de ce qu'ils ont appelé l'Azawad. Quand ils sont rentrés avec armes et bagages, ils se sont installés dans la région de Kidal avec la ferme intention de créer un territoire autonome. Et je crois en son temps qu'il y a eu des déclarations de certains responsables Touaregs qui disaient qu'ils avaient la garantie donc du soutien de la France dans ce sens-là.
Et ça bouleverse complètement la politique et la situation du Mali.
Oui, bien sûr, parce que déjà quand il rentre, ATT avait déjà en son temps demandé...
Donc ATT, c'est le président du Mali de l'époque.
Oui, ATT, c'est Amadou Toumani Touré, donc c'était le président de l'époque. Donc il n'a pas pu avoir le soutien donc des autres pays voisins. Et il y avait donc la menace djihadiste et il avait demandé à ce que les autres s'unissent à lui pour qu'ils puissent combattre le djihadisme. Mais les autres pensaient que c'était une affaire du Mali, donc ils ont laissé le Mali seul dans cette affaire.
Et en 2012, là, il se passe quelque chose de particulier. Les chrétiens sont persécutés et vous-même, personnellement, vous êtes touché de très près.
Oui, parce qu'en 2012, quand les djihadistes arrivent à rentrer à Tombouctou, ils commencent d'abord par piller les services de l'État, ils pillent les banques, ensuite ils commencent à piller aussi les lieux de culte chrétiens. Donc partout où il y a des lieux de culte chrétiens, ils commencent à les piller. Et d'ailleurs, il y a un message où il semble que la liste même des chrétiens, il y avait une liste nominative de chrétiens qui étaient recherchés et qui pouvaient être tués si jamais on les retrouvait.
Donc votre église évangélique baptiste à Tombouctou est pillée et quelques jours après, ces djihadistes envahissent votre maison.
Oui, après avoir pillé l'église, donc il pille d'abord la maison du pasteur Nock, donc qui était le pasteur principal de l'église. Après avoir pillé sa maison, ils vont chez moi où ils pillent la maison de fond en comble. Ils ne laissent rien, même pas la voiture qui ne pouvait même pas démarrer.
Expliquez-nous, quand on dit piller, ça veut dire quoi?
Bon, quand on dit piller, ça veut dire qu'ils viennent d'abord, ils ont commencé par ramasser tout ce qui était papier, donc tout ce qui est livre.
Donc vous aimez beaucoup lire, vous aviez beaucoup de livres, des livres, j'imagine, de théologiens chrétiens, des livres sur la foi chrétienne, et tout ça s'est emmené à l'extérieur dans la rue.
Oui, tout ce que j'avais, en réalité, c'est tout ce que j'avais comme livre, parce que je me suis installé à Tombouctou, pour moi, c'est dans la durée. Donc tous les livres que j'avais d'abord depuis la petite enfance, tous mes livres d'études en théologie, tout ce que j'avais comme livre, ma bibliothèque personnelle, donc c'est fort quand même de moins un millier de livres, si ce n'est rien. Alors ils ont tout mis dans la rue, ils ont arrosé avec de l'essence et ils y ont mis le feu.
Donc ils ont pillé vos livres et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait du reste de vos biens ?
Ils ont pillé les livres. Quand ils ont fini avec les livres, maintenant, ils ont enlevé tout ce qui est équipement dans la maison, que ce soit les lits, les en tout cas, tout ce qui est important dans la maison, ils ont chargé dans un véhicule. Et après, ils ont ouvert grandement les portes pour demander aux enfants, les badauds, tout ce qui était dans la rue, de rentrer et de prendre ce qu'ils veulent, en disant tout simplement que ce qui appartient aux chrétiens leur appartient et que c'est Dieu qui leur a donné ça.
Avant d'arriver chez vous, ils sont d'abord passés à votre radio où ils ont carrément tout pillé là-bas. Comment était la situation ?
Bon, au niveau de la radio, avant qu'ils n'arrivent à la radio, un de mes animateurs, donc qui n'était même pas chrétien, donc a pris soin de prendre l'émetteur et puis certains objets, d'aller les cacher donc dans une famille.
Rappelons-le, c'était une famille musulmane.
Oui, c'est une famille musulmane. Et ils ont gardé ces objets-là jusqu'à notre retour. Donc, on n'a rien perdu de leur côté. Mais pour le reste de la radio, que ce soit mon bureau a été saccagé, ils ont tout pris. Là aussi, tous les livres ont été vandalisés, ils n'ont rien laissé. Et au niveau de la régie du studio, ils ont pillé jusqu'à enlever même les prises. Donc les prises même dans les murs, même les fils ont été arrachés. Donc vraiment pillé de fond en comble.
À ce moment-là, vous n'étiez pas chez vous, hein, à la maison, vous étiez ailleurs. Quand est-ce que vous êtes revenu après ce qui s'était passé ?
Bon, j'étais à Abidjan dans le cadre d'une formation. C'était même au CFK qu'on a eu la formation.
Donc, et le CFK, c'est
le Centre évangélique de formation en communication pour l'Afrique. Donc, on était là dans le cadre d'une formation d'une semaine. Alors, quand je suis rentré, je voulais rentrer directement à Tombouctou. Alors, les responsables chrétiens qui avaient déjà quitté la ville m'ont demandé de ne pas aller à Tombouctou et que c'est risqué. Effectivement, la famille a pu se sauver avec juste une valise. Ils étaient déjà à Bamako, donc on m'a demandé de rallier directement à Bamako. Et c'est jusqu'en 2013, à la faveur donc de la reconquête, que je suis rentré à Tombouctou pour voir de visu tout ce qui a été fait.
Donc là, vous vous découvrez complètement démuni, vous n'avez plus rien. Finalement, face à une telle situation, comment est-ce que vous la vivez ? Est-ce que vous étiez très en colère ? Vous aviez un désir de vengeance ?
Oui, j'étais très en colère. Et je crois que le désir de vengeance m'a même effleuré l'esprit un moment. Parce que je ne comprenais pas que cela puisse m'arriver. Et en réalité, je ne croyais même pas que Tombouctou pouvait être prise. Je pensais que il y aura un petit problème comme en 1991, avec la rébellion de 91. Je pensais qu'il y aura quelques difficultés et puis bon, il y aura la reprise. Mais je ne m'attendais pas à une occupation de la ville. Et je ne m'attendais pas aussi à ce que mes biens soient pillés de cette manière. Donc j'étais très en colère, j'étais vraiment très triste pendant des semaines. Je dormais pratiquement pas, je pensais comment me venger d'ailleurs. Par la grâce de Dieu, à force de prier, de méditer, ça, dans la parole de Dieu, j'ai compris que c'est pas la vengeance la solution.
Qu'est-ce qui a été décisif à ce moment-là pour que vous renonciez à la vengeance ?
Bon, d'abord, il y a la paix du cœur. J'ai vu des gens qui ont souffert beaucoup plus que moi et qui ne cherchaient pas à se venger. Cela m'a donné une leçon. Deuxièmement, Tout ce que j'ai perdu, le Seigneur me l'a rendu presque au centuple.
Bon, à ce moment-là, vous ne le saviez pas encore.
Oui, je ne savais pas, mais j'ai reçu tellement de bénédictions. Hein, y a tout ça. Et j'ai compris aussi que ce que le Seigneur dit est une réalité. Dieu dit que c'est lui qui se chargera de nous venger. Ce n'est pas à nous de nous venger nous-mêmes, mais plutôt, n'est-ce pas, de nous confier à lui. Et je crois qu'en ce moment-là, j'ai compris que moi-même, personnellement, vouloir me venger n'apportera que douleur sur douleur. Parce que je vais devenir un coupable au lieu d'être victime.
Un autre événement qui vient comme ça mettre au grand jour les exactions de ces extrémistes musulmans, c'est en 2015, où 3 personnes sont tuées devant votre radio.
On peut dire que c'est le jour le plus triste de ma vie en tant que serviteur de Dieu. Parce que le 17 décembre 2015, j'avais deux de nos animateurs, des meilleurs animateurs que nous avons, avec leurs amis, ils étaient dans leur espace de causerie, qu'on appelle communément le grain chez nous. Un individu, peut-être deux, on ne sait pas, en tout cas, sorti de l'ombre, ils ont tiré sur ces enfants-là à bout portant, tuant du coup les 3 garçons. Et ça nous a bouleversés. Je crois que même les non-chrétiens dans la ville ont été bouleversés par ces événements-là. Et ça, c'est l'événement le plus triste que j'ai vu.
Et on sait pourquoi cette personne a assassiné ces 3 jeunes ?
Il y a beaucoup d'hypothèses. Certains ont parlé de vengeance. Je ne sais pas en quoi ils vont se venger contre ces enfants-là. D'autres ont dit que c'était une attaque contre la radio. En son temps, je n'ai pas voulu verser dans cette assertion parce que je n'ai pas d'éléments qui me poussent à croire que c'est vraiment la radio qui a attaqué. Alors, il y a eu beaucoup de versions, mais l'enquête est entre les mains de la justice. La justice a ouvert une enquête jusqu'ici, on n'a pas de résultat, mais nous continuons d'attendre. Mais je ne peux pas dire vraiment que c'est la radio qui a été attaquée, mais quand même, c'est le corps de Christ, c'est l'Église qui en a souffert et c'est une attaque contre notre communauté.
Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Comment est-ce qu'on vit en tant que chrétien à Tombouctou, un chrétien qui est exposé, qui parle à la radio, qui annonce le message de l'Évangile?
En réalité, vivre à Tombouctou en tant que chrétien est toujours un défi. Et le pasteur Nok, j'aime beaucoup citer, a toujours dit que si Christ n'était pas vrai, et que si vraiment tout ce qu'il a promis n'est pas vrai, il n'accepterait pas qu'on l'appelle même chrétien dans la ville de Tombouctou, à plus forte raison exercer un ministère pastoral. Et je crois que c'est un défi de proclamer l'Évangile chaque jour sur les ondes en tant que chrétien. Parce que si on ne nous persécute pas de manière visible, nous sommes persécutés moralement tous les jours.
Vous vous sentez menacé dans votre quotidien quand vous marchez dans les rues de Tombouctou ?
Non, quand je marche dans la ville de Tombouctou, je ne me sens pas menacé. Mais je sais que en cas de problème dans la ville de Tombouctou, je ferai partie des premières personnes qui peuvent être ciblées. Parce que chaque fois qu'il y a des difficultés, on pense toujours aux Occidentaux. Et dès qu'on parle des Occidentaux, on pense aux chrétiens.
Abdoulaye Cissé, comment est-ce que vous voyez votre avenir quand on vous entend raconter ce par quoi vous êtes passé et la situation qui est la vôtre actuellement à Tombouctou, au Mali?
Bon, je crois que l'avenir pour moi à Tombouctou, j'ai beaucoup de craintes, j'ai des peurs.
Oui, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, hein, mais vous avez une épouse et vous avez une fille qui a 17 ans.
Oui, effectivement. Je ne voudrais pas que ma famille continue à vivre dans cette incertitude. Mais quitter Tombouctou pour aller m'installer ailleurs, pour moi, c'est trahir aussi ma raison d'être. Parce que je pense que j'ai une mission. c'est de servir vraiment, je ne peux pas dire, de servir ma communauté en partageant l'évangile avec eux. Quitter Tombouctou, pour moi, c'est comme si j'ai tourné dos à la mission à laquelle je suis appelé. Je me suis senti appelé à être pasteur à Tombouctou. Et je vous l'ai dit, dans mon parcours, que j'ai fait 7 à 8 ans comme pasteur dans une église à Diré. Alors, donc, aujourd'hui, quitter ce ministère-là parce qu'il y a l'insécurité, pour moi, c'est trahir vraiment ma mission. Et je ne me vois pas dans ce schéma-là.
Qu'est-ce que le gouvernement fait, votre gouvernement fait pour la protection de vous chrétiens là-bas?
Je peux vous affirmer que notre gouvernement ne fait rien. Parce que lorsque vous vivez une crise, c'est en réalité chacun pour soi. Et depuis 2012, je crois que l'ensemble des Maliens, et en particulier les chrétiens du Mali, vraiment vivent par la foi et ne comptent que sur Dieu pour leur protection. Le gouvernement ne fait rien. Parce que même quand on voit les lois qui sont votées, souvent, par exemple, je donne juste un exemple, quand on décide, par exemple, des élections, on choisit un dimanche pour aller voter. Tout le monde sait que le dimanche, les chrétiens vont à l'église. Alors, quand on a des formations, on choisit un dimanche. Un chrétien, les concours d'entrée à la fonction publique, on les fait les dimanches. Comment est-ce que les chrétiens vont se retrouver ce jour-là pour aller s'inscrire ou faire le vote ou bien le concours? Donc, le gouvernement ne fait rien, on ne peut pas compter sur ce gouvernement-là. Et je crois que c'est la grâce de Dieu, c'est vraiment si on peut se demander vraiment, prier pour que vraiment Dieu ramène la paix dans ce pays-là. Mais on ne peut pas compter sur notre gouvernement.
Abdoulaye Cissé, directeur de la radio Tahanint à Tombouctou au Mali, était l'invité d'un air d'actu aujourd'hui. Rappelons que cet homme de radio et ce pasteur a reçu le prix François Sergi 2021, une distinction distribuée pour la troisième fois en hommage à un ancien journaliste de Radio Réveil, l'association qui chapeaute Radio R. Cette interview était conduite conjointement par Sandrine Chouanti, journaliste à Canal de Vie Télévision à Douala au Cameroun, et par Serge Carrel de Radio R. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres éditions d'un air d'actu, ne manquez pas de visiter notre site web radio-r.ch. Pour aujourd'hui, notre voyage africain se termine. Madame, Monsieur, merci de votre intérêt. Merci aussi à Erol d'avoir assuré la technique de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun.
Un air d'actu avec Serge Carrel.